Et vous écoutez France Culture. Le roman de détective s'enracine dans cet étonnant hymne à la gloire du mal, commun à tous les hommes, dans cette mentalité singulière qui est le désir de voir l'horreur et en même temps, il se développe en lien avec ce vif esprit qui est d'aimer la clarté des choses. Sato Haruo. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui se consacrera ce soir à une de ses icônes les plus chères, le romancier japonais Edogawa Ranpo, figure fondatrice du récit policier japonais, grand dispensateur de l'Uroguro Nanensu, l'érotique grotesque insensée et non sensique qu'on lui doit quelques chefs-d'œuvre romanesques comme La Proie et l'Ombre, Les Arts Noirs ou L'île Panorama, sans oublier certes les réussites graphiques ou cinématographiques d'un Maruo ou d'un Fukasaku. Les actes du grand colloque parisien qui lui furent consacrés en 2017 sortent aux éditions Les Arts Noirs, Gérald Peloux, un de ses co-organisateurs, et ce soir, l'invité de Mauvais Genre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre. Ce soir, Mauvais Genre mis sous le signe du Japon et d'une des gloires japonaises, en tout cas pour nous. Je répète, Edogawa Ranpo, on en avait parlé à Mauvais Genre dès les années 90, si mes souvenirs sont bons, du temps d'Emmanuel Laurentin et de Jean-Christophe Augier. On avait évoqué les toutes premières traductions de Ranpo chez Philippe Piquier. Pour en parler ce soir, à l'occasion donc, je le répète aussi, de la parution des actes du grand colloque qui lui avait été consacré à Paris, donc volume Les Meilleurs du roman policier au Japon. Nous sommes avec Gérald Peloux. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes universitaire et vous avez fait votre thèse sur Edogawa Ranpo, thèse qui est disponible en ligne, on peut le
tout
dire,
à fait.
Pour tous les amateurs, les rampistes fiefés et madrés. Qu'est-ce qui vous a amené à Ranpo?
Oh, c'est une histoire assez compliquée, mais pour faire simple, je m'intéresse surtout, moi, d'abord...
On adore les histoires compliquées.
Ah, donc c'est parfait, alors. Non, en fait, j'ai commencé à travailler, moi, dans sur les années 20 et les années 30 au Japon, plus généralement, et j'étais passé par un écrivain absolument inconnu, Musunoko Disanehatsu, qui avait créé une communauté utopique au fin fond du Japon. Et par mes parcours divers et variés, je suis arrivé sur Edogawa Ranpo pour chercher un écrivain qui aurait pu être représentatif de les années 20, les années folles japonaises. Et c'est vrai que quand on cherche dans cette mouvance-là, Ranpo apparaît tout de suite comme la personne majeure.
Et à l'époque, c'était dans les années...
Les années 90.
Oui, donc on commençait à le découvrir en France.
Tout à fait, oui, il y avait eu une première vague de traduction à la fin des années 80, début des années 90. C'est vrai que c'est à ce moment-là que moi je suis arrivé à l'université, j'ai commencé à travailler, à faire des recherches en littérature et j'ai eu la chance, dans un premier temps, de lire les traductions et après de lire l'énorme pan de textes en japonais qui ne sont pas encore traduits en français.
Donc c'est vrai que Ranpo à l'époque, à l'université, en japonais, c'est les départements de japonais, c'était quand même...
Pas encore, on est vraiment au tout début d'une reconnaissance
un peu
de Ranpo. Oui, c'est vraiment les années 80, on commence à voir des textes qui se veulent académiques au Japon, qui vraiment montrent que Ranpo est un représentant des questions sur la ville, l'urbanité des années 20, 30, etc. Mais il faut vraiment attendre les années 90 pour que Ranpo prenne toute sa place dans l'université, dans l'académisme japonais. Sinon, auparavant, ça restait quand même, vu du point de vue académique, quelque chose, un sous-genre, le roman policier, un sous-genre peu intéressant, pas digne d'intérêt.
Eh bien, Gérald Peloux, bienvenue au pays des sous-genres, bienvenue au pays des mauvais genres. Bonsoir, Sixtine Audebert.
Bonsoir, François.
Comment va-t-elle?
Très, très bien.
On prépare ses examens?
Oui, plus ou moins. On peut quand même lancer de fait un nouvel appel à contribution aux éditeurs de mauvais genre. Jadis, j'avais parlé du latin dans le métal et maintenant, je vais m'intéresser bientôt aux fanzines. Donc, si des auditeurs connaissent des lieux physiques où je puisse trouver des fanzines... Oui, je veux dire en consultation physique comme à la fanzinothèque de Poitiers, mais toujours dans le métal, années 80-90, s'ils ont des ressources en ligne, je suis également preneuse. Voilà.
Très bien, appel à toutes les voitures, ceci n'est pas un exercice. Sixtine cherche tout ce que vous pouvez savoir, avoir ou concevoir sur les fanzines. Donc,
métal, années 80-90.
Ouais. Voilà, l'appel est lancé, nous le relayerons comme se doit. Fausto Fazulo, bonsoir.
Bonsoir François.
Vous revenez du Japon, bien évidemment.
Bah, j'y pars en fait dans 3 jours en vrai. Mais...
Soit il en revient, soit il y part.
Je sais pas, je suis dans une sorte de vortex, je sais plus trop où je suis en fait.
Vous vouliez nous parler d'une disparition, hélas,
une disparition, la disparition d'une très grande plume, en fait, de l'art japonais, qui est Kazuo Koike, qui était un très grand scénariste de manga et de cinéma. On lui doit, entre autres, des personnages iconiques tels que Ito Ogami, qui était donc la star de Lone Wolf and Cub, Baby Cart. On lui doit aussi Lady Snowblood, on lui doit Crying Freeman, on lui doit Hanzo the Razor, on lui doit toute une série de personnages que Jean-Pierre Dionnet, qui est juste en face de moi, connaît évidemment par cœur. C'était quelqu'un qui a eu une influence considérable sur le manga. Mademoiselle Rumiko Takahashi a été son élève, entre autres. Il a travaillé avec les plus grands, comme Takao Saito, l'auteur de Golgo 13. Enfin, c'est une perte gigantesque. C'était un très grand théoricien aussi de l'écriture. Il a laissé plusieurs ouvrages théoriques, justement, pour tous les scénaristes en herbe. C'est en tout cas quelqu'un qui compte et qui est encore aujourd'hui cité par les mangaka au Japon.
Merci, Fausto. Jean-Pierre Dionnet.
Pour ceux qui veulent aller très très vite, que il y a une ou deux chansons admirables dans Kill Bill qui viennent très directement des chansons qu'il a écrites pour Lady Snowblood, auxquelles Kill Bill rend directement hommage. Il a écrit des scénarios de films également, mm-hmm. Il a eu une influence considérable. Et en dehors des quatre séries qu'on a citées, il en a fait cinq ou six autres d'absolument vitales. Il est le scénariste, enfin j'en parlais il n'y a pas si longtemps avec Frank Miller, on était deux, mais deux sur deux c'est bien à penser, oui. Qu'il était peut-être le meilleur scénariste de bande dessinée du monde, car il avait fait dans le manga quelque chose que personne d'autre n'a fait, c'est-à-dire des sagas très longue et très dure à lire en français. Je pense surtout à Baby Cart qui existe dans un format où on n'arrive pas à lire tellement c'est petit. Et il a fait une saga sans fin mais qui était une perfection perceptible par nous. Et il a grandement influencé Frank Miller, Tarantino et tant d'autres.
Une autre disparition qui vous est hélas très très proche, Jean-Pierre.
Ah ben pour Dick moi, Rivers. C'est l'immensité de Dick Rivers qui a toujours été un peu à part dans le rock français, qui au mois de janvier est tourné encore, qui pour quelques-uns comme Bachung qui nous a quittés avant lui ou Christophe le chanteur était ou Cabrel aujourd'hui était le plus pur des rockers français. C'était quelqu'un qui la ramenait pas tant que ça. Mais je vous dirais par exemple que j'ai lu ses échanges de correspondance avec Elvis Presley, ils sont pas beaucoup. Et puis quand il passe dans l'émission de Lennon et McCartney pour chanter avec Lennon qui dit « Dick Rivers », il chante et à ce moment-là, Paul McCartney lui donne une chanson qui s'appelle « And I Love Her ». Et il va faire une très jolie version, mais comme Paul McCartney va la reprendre dans Hard Day's Night, bon, ben celle de Dick Rivers sera balayée. C'était le plus pur des rockers français, c'était Fil de Fer dans Lucky Luke, c'était un ami du professeur Choron, un personnage complexe et compliqué, mais d'une droiture, d'une rigueur dans le rock puriste, qu'on a rarement égalé, et un homme droit, et un homme juste, et une voix à la Johnny Cash.
Merci madame, merci messieurs, nous n'oublierons pas Dick Rivers. Anna Homler, choisie par Laurent Polleret en tête de notre angoissante playlist de ce soir dans Mauvais Genre sur France Culture. Nous sommes en effet totalement dédiés ce soir à l'œuvre de Edogawa Rampo, le maître du roman policier japonais. Pelou, On a évoqué là, la découverte par l'université, l'acceptation par l'université de Degawa Rampo. On peut parler aussi de son histoire éditoriale en France, parce que contrairement à ce qu'on pense, finalement, nous avons tous découvert Rampo avec Philippe Piquier, oui, qu'on remercie. Mais je vois dans la bibliographie des œuvres, des traductions françaises de Rampo, qui est publiée donc dans les actes du colloque au Lézard Noir, qu'en 54, déjà, la Chenille jaune était parue dans une revue fugace qui s'appelait Noir Magazine.
Tout à fait, en effet, par des recherches que entre autres que je dois grâce à la Bilipo qui m'avait donné l'information pour les années 50. C'est une traduction en effet dont on a eu beaucoup de mal à trouver en tout cas la trace et en tout cas l'origine puisque c'est assez complexe. Mais on pense que en fait c'est un lien d'amitié entre Rampo, Harris qui était le traducteur aux États-Unis et le fait que Harris connaissait aussi des traducteurs en France et que en fait Harris aurait proposé des textes aux traducteurs français à traduire en français et ce qui aurait donné donc cette première traduction donc la Chenille jaune à l'époque donc bien sûr c'est passé par l'anglais bien sûr à cette époque-là.
Alors Philippe Piquier lui n'arrive qu'en 1988 et entre-temps il y a quand même 34 ans de silence opaque avec sauf rompu seulement en 1974, par la revue Utopie Asiatique. Donc Rampo est véritablement une sorte d'ovni, comme ça.
Tout à fait.
Qui doit attendre la fin des années 80 pour nous parvenir.
Et la fin des années 80, c'est, alors en effet, d'un point de vue purement historique, le fait où le Japon vraiment s'impose comme grande nation économique et aussi culturelle. Il y a une confluence de plusieurs phénomènes, c'est-à-dire que le Japon veut aussi présenter sa culture à l'étranger. Donc il y a des subventions de la part de l'État japonais pour pouvoir faire des traductions diverses et variées. Et aussi un intérêt de certains traducteurs en France. Donc cette confluence de certains traducteurs français et l'État japonais vont donner naissance à ces premières traductions chez Piquier. Donc, au bout de 30 ans, en effet, quasiment de silence, un peu dommageable, mais je pense que c'était un peu normal, vu l'aspect quand même particulier de Rampo, qu'on présente comme un écrivain de roman policier, et ça rentrait pas vraiment dans les cases du roman policier à l'époque.
Mais Jean-Pierre Dionnet, en plus, le cinéma glorieux tiré de Rampo n'était pas encore, dans la fin des années 80, très connu.
Non, il arrive tard. Il arrive tard parce que on peut dire que on découvre d'abord les metteurs en scène, donc soit Fukazaku ou les autres, on part du principe que ce sont leurs œuvres. Et souvent, et pour la plupart des gens, on ne sait pas d'où ça vient. Mais l'avantage de l'amateur de cinéma japonais ou de manga, c'est que généralement, il est forcé d'élargir sa culture. Donc il passe de l'un à l'autre, cinéma, la même littérature, et etc. Et on finit par faire le circuit. En fait, la France est un pays magnifique, non seulement parce qu'il a inventé le japonisme, mais aussi un pays qui avait pris une avance considérable. Parce qu'il y a eu, dès les années 50... des gens comme André Gide et autres pour défendre Simenon, qui était un peu son équivalent, ou justement la bande Vian, etc. Au Japon, c'est vrai qu'il y a eu, il n'y a pas eu ce surgissement. Je me souviens qu'il y a un écrivain dont on ne parle plus du tout aujourd'hui, que j'ai croisé quand il se cloîtrait dans sa chambre d'hôtel, qui disait le plus grand bien de Rampo, mais on l'a oublié, c'était Murakami Ryu, qui disait que dans Tokyo Décadence, il avait essayé de faire une ambiance à la Rampo, mais qu'il n'y était pas parvenu et que donc il ne ferait plus de films. Et comme après Le bébé de la consigne électrique, qui est un livre terrifiant, il trouvait qu'il n'avait pas été assez loin, il a dit qu'il n'écrirait plus de livres. Et effectivement, il a pratiquement tenu parole. Ceci est très japonais.
On parlait de Simenon, là, il y a page 171 des actes du colloque. Gérald Pelou, une photo extraordinaire. Ouais. Alors, non, la photo, je ne peux pas... C'est une pièce très bien rangée, très cosy, très confortable, avec une table centrale, canapé, coussin. Enfin, apparemment, il y a d'extraordinaire, mais... Toute la magie est dans la légende, je la lis. Rampo a entièrement fait réaménager le salon à l'occidental de sa maison pour accueillir le célèbre écrivain Georges Simenon qui n'est finalement jamais venu. C'est extraordinaire ça.
Tout à fait, oui. En effet, il y avait ce lien, les lectures, il faisait les lectures à travers l'anglais, alors il ne parlait que l'anglais, et donc en effet, il avait des contacts avec différents auteurs américains, et en effet, Simenon devait venir. Il y avait une prévision d'une tournée au Japon qui n'a jamais eu lieu, et en fait, donc la légende étant courte, en fait, il a quasiment rehaussé baisser le niveau du toit, du plafond, puisque étant européen, il pensait que ces millions seraient plus grands que les Japonais. Donc il y a des histoires comme ça, et on peut encore la visiter, puisque c'est maintenant devenu un centre de recherche. On a le salon, mais ce qui est le plus fantastique, c'est en effet le grenier à riz, qui a été transformé en bibliothèque.
Enfin, on va en parler.
D'accord, très bien, c'est vraiment fantastique.
Fait-on plus mélancolique que l'idée de Rampo dans son salon réaménagé, attendant vainement jour après jour, année après année, Simon Fausto Fazzolo.
Et puis souvenez-vous,
la découverte de Rampo.
Souvenez-vous aussi qu'il avait recommandé Lovecraft aux lecteurs japonais. Oui. Rampo, on en avait parlé justement dans une émission dédiée à Lovecraft, ou dans une liste qu'il avait établie pour le magazine La Traduction Française, c'est Joyaux, une liste des récits les plus terrifiants. Il avait cité Lovecraft. La découverte de Rampo, je vais logiquement rebondir sur ce que disait justement Jean-Pierre. C'est vrai que beaucoup de lecteurs français ont établi en fait le chemin inverse, c'est-à-dire que c'est en voyant certains films de Fukasaku, de Tero Ishii ou de Tsukamoto Shinya, qui se sont penchés en fait sur le nom qui était au générique, en se disant tiens, Edogawa Rampo, qui est-il? Et ils ont remonté comme ça, et ils ont trouvé effectivement, à l'époque il n'y avait pas beaucoup de traductions, mais ils ont pu commencer à gratter autour de la personnalité de cet auteur. C'est vrai qu'aujourd'hui on a un panorama, sans mauvais jeu de mots, qui est beaucoup plus large, sans être complet, mais effectivement vers la fin des années 80, au début des années 90, quand le cinéma japonais, les mangas et la littérature pop était quand même réservé à une sorte de club un peu privé, il était difficile d'avoir les bonnes informations. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, mais c'est vrai que le cheminement a été d'une certaine façon fait dans un sens inverse pour beaucoup.
Je crois que c'est vrai dans tout le temps. Si vous prenez le roman américain, Niven Bush ou James Jones, c'est quand il y a des films comme Tant qu'il y aura des hommes qu'on dit le roman du film. Et c'est comme ça qu'on a eu accès aux plus grands écrivains américains des années 50, c'est quand le film en était tiré, avec toujours les personnages du film en couverture pour attirer le chaland.
Depuis ce temps glorieux, donc Philippe Picquier et Machaut et les Arts Noirs ont été là pour nous faire découvrir non seulement les textes parmi les plus percutants et les plus mauvais genres d'Edogawa Rampo, on va voir lesquels, mais également toutes les œuvres qui ont été tirées, Meru Maruo, et puis en DVD et également. Alors, on a parlé de la réception du personnage, parlons maintenant de son existence, 1894-1965, personnage qui traverse, on peut le dire, une très très partie de l'histoire la plus tumultueuse et la plus, je dirais, effrayante de l'histoire du Japon contemporain, la guerre mondiale, et puis avant toute l'époque des années 30-40. C'est très étrange, vous avez vous-même, donc Gérald Pelou, à la fin du volume Les méandres du roman policier au Japon, dressé une sorte de biographie très synthétique de Rampo. C'est une vie extrêmement bizarre, où à la fois il a un rapport très curieux à la littérature, à l'acte d'écrire, presque fantasmatique d'une certaine façon, et puis il s'arrête d'écrire, après il reprend. Par ailleurs, c'est un personnage central dans l'institutionnalisation du genre policier au Japon, avec les revues, les maisons d'édition, les anthologies. Donc, si vous pouvez nous faire déjà une sorte de petit paysage biographique de Rampo.
En effet, Rampo, c'est la personne principale pour le roman policier. On donne son comme date 1923, qui est la date pivot comme création d'un roman policier autochtone, si on peut parler comme ça. Rampo, lui, a toujours vécu en fait dans l'écrit, le récit oral ou également écrit, puisqu'en fait, il le raconte très vite, il a été baigné par des récits traduits en japonais, lus par ses parents, par sa mère et par sa grand-mère. Et donc, dès le début, en fait, il a baigné dans ces récits oralisés. Et quand il va grandir un peu plus tard, il va commencer à s'intéresser aux récits, alors non plus japonais, ou en tout cas qu'il considère comme japonais, mais des récits américains majoritairement, voire anglais, donc Edgar Allan Poe et Conan Doyle, qui ont vraiment été deux premiers grands écrivains qu'il va reconnaître comme de grands écrivains du roman policier. Alors très vite, en fait, il va être confronté à un énorme problème qui va quasiment le suit durant toute sa vie, c'est l'adaptation du roman policier tel que lui le découvre avec les écrivains étrangers au Japon. Dans un premier temps, en fait, il va avoir une réaction, on dira, de jeunes étudiants, il va vouloir partir à l'étranger, puisque moi je vais écrire des romans policiers, c'est impossible au Japon d'écrire en japonais des romans policiers, donc je vais partir à l'étranger.
Et on trouve qu'il n'y avait que des traductions.
Il y avait quasiment que des traductions.
On est dans les années...
On est 10 environ.
Les années 1910.
En effet, il y a eu une énorme mode du roman policier traduit au Japon à la fin du 19e siècle, dans les 1880-90, avec un journaliste traducteur, Kuroiwa Luiko, qui a traduit beaucoup de romans policiers anglais, français, Dubois Gobé, Gaborio par exemple.
Dubois Gobé,
oui.
Fortuné Dubois Gobé, qu'on a mis 50 ans à découvrir, a été traduit au Japon en 1910.
Voilà, tout à fait. Alors, les traductions à l'époque complètement farfelues, puisqu'on coupait, créer un nouveau roman à base de deux romans, donc une traduction un peu folle. Et donc lui, Rambo va être vraiment marqué par cette littérature étrangère, et son objectif va être d'adapter ça au Japon. Donc partir à l'étranger, il va se rendre compte que c'est pas possible, il parle pas l'anglais suffisamment pour partir aux États-Unis. Et c'est en découvrant des auteurs japonais, entre autres le plus connu étant Tanizaki Junichiro, qui eux-mêmes dans les années 10 s'intéressent aux romans policiers pour les possibilités narratologiques. Donc en fait, ces écrivains-là en ont assez, on dira, du naturalisme qui veut une écriture plate, et découvrent dans le roman policier étranger des techniques d'écriture complexes où le narrateur parle de différents points de focalisation, où le récit va être déchiré, découpé, etc. Et c'est Rampo, en lisant Tanizaki, entre autres, qui va se dire « Ah, en effet, au Japon, on peut écrire aussi en japonais des romans policiers. » Et donc, c'est ce qui va donner naissance à ses premières nouvelles, donc la pièce de deux scènes, etc., qu'il va écrire au début des années 20, et qui va vraiment lancer, on dira, une écriture japonaise du roman policier au Japon. Alors, toujours le problème chez Rampo, c'est de vouloir présenter à ses lecteurs japonais le roman policier. Donc il va en fait, dans un premier temps, pendant 2-3 ans, écrire beaucoup de nouvelles.
Des nouvelles comme celles qu'on a pu en lire.
Alors en effet, celles qui sont traduites en français.
Voilà.
Et en fait, alors si je commence par la fin, c'est un petit peu le biais qu'on a en France. C'est-à-dire que nous, on découvre ce que les Japonais, pendant très longtemps, avaient oublié. C'est-à-dire que les nouvelles Eroguro, les nouvelles, ces récits,
voilà.
Début des années 20, en fait, au Japon, ont été relativement vite oubliés, puisqu'en fait, il y a eu une troisième couche, avant de passer à la deuxième couche, tout ce qui est récit pour enfants, qui a vraiment, en fait, fortement influencé le lectorat japonais. Et en fait, quand on parle au Japonais actuellement, d'abord, ce à quoi ils pensent, c'est les récits pour enfants, avant de penser aux récits.
Ah oui, et pour les Japonais, Rampo, c'est un auteur pour enfants.
C'est d'abord un auteur pour enfants. Et donc, en fait, Rampo va d'abord écrire beaucoup de nouvelles pour mettre en place une écriture qui se veut du roman policier. Alors après, au Japon, le roman policier, dans les années 20, c'est très loin du roman policier tel que nous on le connaît, les formats classiques, à la Agatha Christie, etc. Il va être, on dira, sa tendance à l'écriture n'étant pas une tendance, on dira, très carrée, dans le sens où il se veut pas un théoricien de l'écriture en tant que tel. Et très vite, en fait, il va commencer à écrire des romans très longs, des romans longs, en chōhenshō, c'est ça en japonais, parce qu'il, en fait, il commence à être connu et on le demande auprès des grandes revues de l'époque, donc des récits qui vont durer, des feuilletons, en fait, sur un, voire deux ans. Et il va être très gêné, on dira, aux entournures, par le fait de ces récits qui ne correspondent pas, en fait, à l'image que lui-même se faisait du roman policier. Donc, en fait, il écrit des textes qui ne correspondent pas à ce que lui veut écrire, et donc, ce qui va provoquer parfois des arrêts d'écriture pendant un an et demi. Il va arrêter d'écrire, parfois il va disparaître, alors parfois il s'enferme dans un hôtel au Japon, parfois il part en voyage en Japon, il donne plus quasiment de nouvelles, donc sa femme s'occupe de gérer le quotidien à Tokyo ou à Osaka, mais encore une fois, toute sa vie va être vraiment coincé entre cette volonté de présenter un roman policier qui se voudrait le plus pur ou le plus orthodoxe possible.
Alors justement, on parle de pureté et d'orthodoxie. Quelle est pour lui la pureté du récit? Parce qu'effectivement, vous dites qu'il a été marqué par Poe. Mm-hmm. C'est un type d'atmosphère, de récit, de personnage. Conan Doyle, c'en est encore un autre, assez, d'une certaine façon contradictoire. Et puis après, il y a la lecture des grands classiques, tout ce qui est le roman anglo-américain des années 20-30. Donc, elle est où la pureté là-dedans?
Ah, mais c'est la grande question de tout le roman
entre
policier.
Entre La Maison Usher et le 221B Baker Street.
C'est vraiment l'énorme problème du roman policier de Rampo, mais de tous les écrivains de roman policier de l'époque des années 20-30. Hein, on a d'énormes débats pour savoir ce que c'est que le roman policier. Donc on a en effet Rampo qui se trouve lui plus ou moins emporté par la vague Eroguro, alors que lui-même se dit qu'il n'est pas Eroguro. Hein, donc c'est un peu étonnant, parce qu'en effet ses textes sont vraiment de la vague Eroguro. Et donc lui, il l'a d'un côté affiché, montré, mis en avant comme un des représentants d'un type de roman policier, et vous avez d'autres écrivains de romans policiers qui, eux, se veulent vraiment des purs et durs, avec la résolution de l'énigme à la fin, une énigme qui se veut scientifique, etc. Et on a, dans les années 20-30, toujours cette confrontation.
C'est vrai que vous disiez que ça avait posé tout à l'heure problème pour la traduction, justement le fait qu'il ne rentre pas exactement dans ce qu'on appelle la catégorie roman policier en France. Et c'est vrai qu'à la lecture des nouvelles, en tout cas, dont on parle, donc on en parlera peut-être tout à l'heure, La Bête dans l'ombre, La Chenille et le démon de l'île isolée, on a toujours l'impression, de fait, que, bon, pas pour toutes, mais par exemple pour La Bête dans l'ombre, vraiment, où, que c'est beaucoup plus érotique, de fait, que policier. Mm-hmm. Et parfois même, comme dans, je ne sais plus laquelle, mais il y a le personnage du détective s'efface de manière assez radicale et revient surgir à la fin pour remettre, disons, revenir rapporter. Les retourner à la norme, presque.
En effet, c'est à la fois c'est ce qui pose problème pour Rampo et pour les écrivains de l'époque, mais c'est aussi, je pense, un aspect intéressant du roman politique tel qu'il va être en fait adapté au Japon. C'est-à-dire que, en effet, il n'applique pas à la lettre les critères d'écriture qu'on peut retrouver en Occident, pour faire simple, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, parce que c'est vraiment les deux pôles pour Rampo et pour les écrivains de romans policiers au Japon. Mais en même temps, il met en place une écriture particulière. Et en effet, dans La Proie et l'ombre, etc., où on est l'énigme, finalement, elle n'est pas résolue à la fin, puisqu'on a cette fin un peu bizarre où l'enquêteur dit ne pas savoir s'il a vraiment résolu l'énigme, donc on se trouve sans fin. D'autres enquêtes qui ne sont pas des enquêtes. La première nouvelle, donc la pièce de scène qui est présentée comme le roman, la nouvelle policière par excellence, il n'y a pas d'enquête, finalement, c'est un jeu entre deux jeunes qui s'ennuient éperdument parce qu'ils sont au chômage. Donc en fait, Rampo met en place un type de récit de roman policier qui est très loin de nos habitudes, on dira, en tant qu'occidentaux. Et c'est ça, en fait, qui est très intéressant aussi.
Alors justement, on en écoute un extrait de cette Proie et l'ombre, lu par Christophe Beer.
Je ne sais comment rendre compte des quelques 20 jours qui suivirent. Vivant au rythme quotidien de nos rendez-vous secrets, nous nous plongeâmes dans les délices diaboliques des plaisirs de la chair. J'avais loué une ancienne maison de grossiste avec un entrepôt du côté de Negishi et j'en avais confié la garde à une vieille marchande de bonbons du voisinage. La plupart du temps, Shizuko et moi, nous y retrouvions dans la journée. Je n'avais jamais connu le déchaînement vraiment terrifiant de la passion d'une femme. Parfois, nous redevenions des enfants et nous nous pourchassions à quatre pattes, en haletant et en tirant la langue comme des chiens de chasse dans cette immense bâtisse qui avait des airs de maison hantée. Quand j'étais sur le point de l'attraper, elle se tortillait comme un poisson et me glissait entre les doigts avec habileté. Nous poursuivions notre course jusqu'à nous retrouver hors d'haleine, l'un sur l'autre comme morts. De temps en temps, nous nous enfermions dans l'entrepôt mal éclairé et la maison redevenait calme pendant une heure ou deux. Si quelqu'un s'était approché de l'entrée et avait tendu l'oreille, il aurait entendu les longs sanglots de douleur d'une femme mêlés comme dans un duo, aux halètements sourds et sans retenue d'un homme. Un jour, Shizuko avait apporté un gros bouquet de pivoine et sorti la cravache que Rokuro Oyamada avait ramenée de l'étranger. Je frissonnais d'émotion. Elle me la mit entre les mains et m'ordonna de frapper son corps nu. À force de subir la cruauté de son mari, elle avait fini par partager son vice et était possédée du désir masochiste de livrer son corps au supplice. De mon côté, je suis sûr que si notre liaison avait duré 6 mois, j'aurais atteint le même degré de folie que Rokuro Yamada. Si je n'ai pu résister à sa demande, c'est que je me souvenais de l'étrange frisson de plaisir que j'avais éprouvé en découvrant les zébrures rouges laissées par les coups de cravache sur son corps docile à la surface de sa peau blanche. Mais ce n'est pas pour décrire de telles relations entre un homme et une femme que j'ai entrepris de rédiger ce mémorandum. Un jour, j'y consacrerai un roman.
Voilà un extrait de La Proie et l'ombre d'Edgar Allan Poe, lu par Christophe Beer. Alors effectivement, Gérald Peloux, il faut expliquer d'abord les raisons de ce pseudonyme, car c'est un pseudonyme assez célèbre, ces raisons, mais on va les redire, c'est important. Et puis nous apporter une analyse conceptuelle de l'erogo non nonsensu, dont on parle depuis le début de cette émission et qui mérite quand même largement, et même qui est cité dans le texte, d'être évoqué.
Alors en effet, Edokawa Rampo, c'est un pseudonyme. Rampo s'appelait en fait Hirai de son nom de famille, Taro de son prénom, beaucoup plus courant. Et Edgar Allan, Edogawa Rampo. En japonais, se prononce Edogawa Rampo, qui est en fait la transcription phonétique d'Edgar Allan Poe. Donc ça, ça en dira de point de phonétique. En effet, c'est un hommage marqué, bien sûr, à un de ses écrivains favoris. Et l'autre signification, c'est la signification des caractères, puisque Edogawa Rampo, en japonais, veut dire flâneur ou promeneur au bord de la rivière Edogawa. Donc, qui est une rivière qui traverse Tokyo, et ça peut en effet, on voit souvent en effet dans certains textes des promeneurs, le promeneur de la ville, des références à Binyamin, etc. On voit des références comme ça qu'on peut marquer dans les années 20-30 et qui ne sont sans doute pas fortuites auprès de Rampo. Et après, pour donc, l'Elogulo Nonsense, en fait, c'est un mot valise, si on peut dire, qui en fait vient du japonais élotique. Grotesque nonsense, donc érotique, grotesque non-sens. Et alors ce n'est pas un mouvement en tant que tel au Japon, c'est une ambiance, une atmosphère générale du Japon qui vraiment arrive à son zénith en 1930, 1931, voire un peu 32, mais 30-31, et qui est une ambiance culturelle, sociale.
Et donc le mot existe à ce moment-là.
Alors le mot en fait commence à apparaître. Le mot, par exemple, le Elo, l'abréviation de érotique, ouais, apparaît à la toute fin des années 20. On commence à voir apparaître dans les journaux, dans les magazines, pour désigner en effet l'érotisme tel que on le présente au Japon. Et cet érotisme en fait passe surtout à l'époque à travers les cabarets. Où on montrait une jambe est déjà un érotisme le plus...
Le cabaret qu'Edogawa Rampo fréquentait.
Oh, sans doute, oui, sans doute, puisqu'on voit des photos dans les années 50 où il fréquente encore des cabarets. Donc sans doute, dès cette époque-là, il devait les fréquenter. Et en effet, on a donc cet érotisme qu'on voit apparaître dans des magazines, puisqu'il y a une efflorescence des magazines avec beaucoup d'images. Donc on montre des jeunes femmes, alors de différents types, européennes, françaises, américaines, des japonaises, etc. En montrant le plus qu'on peut peu de nudité. Le grotesque fait référence à tout ce qui ne serait pas esthétiquement, propre, esthétiquement accepté à l'époque au Japon. Donc on va montrer des images, souvent ça passe beaucoup par l'image en fait, hein, des images de... Alors on est vraiment dans une période, hein, encore une fois, tout ce qui est... colonialisme est très à la mode, donc on montre des images de peuples au fin fond de l'Inde, au fin fond de la Papouasie, etc., pour montrer d'autres images qui ne correspondent pas à des critères objectifs de ce que pourrait être l'esthétique japonaise. Et le nonsense qui lui apparaît un peu après et qui est peut-être moins reconnu, parce qu'on parle souvent de héros gros et on laisse tomber le nonsense, mais à l'époque c'était vraiment un triptyque, et le nonsense en fait c'est tout ce qui est comique. Et on a en effet, encore une fois dans les cabarets, on a beaucoup de comiques, on a des films aussi qui jouent beaucoup sur le décloisonnement des différentes esthétiques. Par exemple, on a à la fin des années 30 des films où on a Enoken, qui est un des plus grands comiques de l'époque, qui sort du cabaret japonais de la fin des années 20, début des années 30, où on le voit, donc c'est un acteur qui est très bondissant, et il joue dans des films d'époque, donc de cap et d'épée, donc 1800, 1850, 1870, et la musique est une musique japonaise, et par moments on change et on passe au jazz. Donc on a des acteurs habillés à la japonaise traditionnelle, mais qui dansent sur du jazz. Donc vraiment, c'est ce jeu sans arrêt entre eux. Donc,
une espèce de frottement entre esthétiques contradictoires. Jean-Pierre Dionnet.
Ce qui est très curieux, c'est qu'on est un peu à la même époque que la République de Weimar en Allemagne.
Ben voilà, tout à fait.
Ouais. Que la même notion au cabaret. Et petit aparté, je sais qu'on sort actuellement pratiquement tous les films très ambigus de Marlène et de Sternberg. Qui sont issus, on peut dire, de la République de Weimar, avec le personnage de femme fatale, qu'elle soit impératrice rouge ou femme et le pantin. Et je pense au film plus tardif de Sternberg, Anatane, qui vient d'être réédité également. Il y a quelque chose de commun dans tout ça, puisque chez Sternberg, c'est un Japon fantasmé, mais c'est cette liberté sexuelle qui a disparu en Allemagne. Le personnage étonnant, quand il dit « j'arrête le cinéma en 35, il ne reviendra avec un film Anatane », il en a fait d'autres entre-temps. Je pense que nous sommes à un moment où la décadence, qui est toujours considérée comme venant d'ailleurs, passionne tous les pays. Et moi, je voulais parler une seconde de Sada Abe, parce que chaque pays a les procès qu'il mérite. Nous, on a eu Landru et tout ça. Sada Abe, c'est une femme, une belle femme, qui en 1936 asphyxie son amant, lui arrache ses testicules, lui coupe, on va dire, le zizi, les met dans un sac, se fait prendre au bout de 3 jours... Et elle explique son cas, c'était par amour, elle voulait garder ce qu'il y avait de meilleur de lui. Elle ne fera que 4 ans de prison, elle fera une autobiographie triomphante. Donc nous sommes dans ce Japon-là, où un fait divers comme ça Nous, c'est Landru qui mange ses femmes, ou plutôt qu'il les... Non, oui, qui les brûle, il ne les mange pas.
Qui les mitonne.
Voilà, c'est Landru qui les brûle, qui les grille. Là-bas, c'est Sada Abe qui promène le sexe de son amant. Donc c'est un pays très très particulier. Et je me souviens que quand moi j'arrive dans le Japon des années 80-90, où je ne lis pas le japonais, je vais lire sans le savoir des livres de Edogawa Rampo illustré par Junji Ito, une ou deux histoires courtes. Je vais découvrir Maruo, dont on va reparler. Et Maruo, il n'est pas dans les librairies de manga. Dans les librairies de manga, il y a les mangas normaux, mais il y a Maruo à part qui est dans des librairies, hein, j'allais dire, littéraires et décadentes. Et je pense qu'il y a Edogawa Rampo, mais là, je suis incapable à ce moment-là de m'en rendre compte. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, parce qu'il y a des milliers de choses à dire. Si, je voudrais dire qu'il y a dans votre livre admirable, où tout est couvert, il y a un oubli pour moi considérable, car j'ai adoré le film d'animation Midori, qui est un film extrêmement malade, qui est sorti en France sous le nom de Midori, la jeune fille aux camélias, d'un nommé Harada, avec une musique d'un nommé Jules César. Oui, Jules César, c'est J.A. César. C'est-à-dire, c'est encore une manière japonaise de s'approprier un nom. Et c'est Freaks, en gros, fait en film, avec un dessin qui respecte totalement l'ambiance grotesque et freaksienne. Et c'est une blessure dans mon cœur, car c'est le seul film que je n'ai pas pu passer à Canal. À l'époque où je passais ce que je voulais dans le quartier interdit, car on l'a taxé de pédophilie. Mais non, ce n'est pas de la pédophilie, puisque cette jeune fille a été violée par presque tout le monde, mais qu'ensuite c'est le nain de cirque qui la sauve, et elle a 16 ans. Enfin, passons sur les détails. Voici une œuvre délicieuse et charmante. Alors, vous n'alliez pas tout couvrir, mais je suis content de voir qu'un petit distributeur, enfin, a sorti Midori en DVD, qui avait été révélé à l'Étrange Festival en 2005 pour la première fois, et qui est une sucrerie. Manière très très habile d'utiliser le monde de Rampo.
Alors Gérald Pelloux, réaction à tout
ça. Oui, en effet, la comparaison avec Weimar est absolument parfaite. En effet, on est vraiment dans deux périodes, autant en Allemagne qu'au Japon, où on pousse le curseur le plus loin possible dans la démocratisation en plus. Donc on est vraiment à la fin des années 20, le Japon se démocratise au maximum. Donc on a la censure qui n'arrive plus à suivre, en fait, finalement, la vague de publications qui se veulent érotiques, grotesques, etc. Mais en même temps, on sent plus ou moins arriver, en effet, il y a d'abord la crise économique qui touche le Japon en 29 de manière terrible, et après on voit arriver le militarisme de plus en plus fort. Donc on a ces Japonais qui, alors certains disent que c'est parce que l'érotisme grotesque était une sorte d'échappatoire à la pression sociale, la pression politique de l'époque, pourquoi pas, mais c'est aussi en effet simplement une possibilité pour les Japonais de s'exprimer dans leurs intérêts les plus divers. Et en effet, l'histoire du nain dont vous me parlez, ça fait référence à des textes non pas traduits en français encore, où le nain est une image, on dira, systématique chez Rampo. On a des textes qui parlent du nain. Alors, il y a une traduction, je crois, par Miyako dans un des textes de Maruo, où on voit une BD de Maruo, d'un texte de Rampo qui parle d'un nain qui va se venger effroyablement dans un cirque, parce qu'en effet, il a subi les pires avanies de ses collègues de cirque. Mais en effet, l'histoire du nain est...
C'est Midori. Non, mais il y a une chose que je voulais vous demander, parce que je ne sais pas si c'est de l'humour volontaire ou involontaire, mais je trouve que Rampo, des fois, a un humour dévastateur. Par exemple, il parle des mystères de chambre close. Apparemment, il était très fasciné par Gaston Leroux, le mystère de la chambre jaune. Et il dit, mais vous savez, les mystères de chambre close, c'est très très difficile à envisager dans un pays où les maisons sont faites en papier.
Gérald Pelloux, c'est vrai que...
Tout à fait, oui. C'est la problématique. Oui, bon, il a résolu le problème autrement, avec des trous à droite et à gauche.
Avec une chaise aussi.
Tout à fait, oui. Donc, mais en effet, c'est tout à fait...
On va écouter de nouveau Christophe Beer nous lire un texte, alors cette fois non plus une fiction, mais un texte théorique, donc d'Edogawa Rampo.
Les dessins de Yoshitoshi ne sont pas des pitreries. Ce sont d'adorables jouets présentant la face sévère de la chambre de la cruauté. Bien que jouets, cependant, ils transportent un rêve des temps lointains que seuls les êtres aliénés peuvent entrevoir. On y décèle la nostalgie d'une cruauté reniée depuis des milliers d'années. Dans l'estampe représentant le seppuku de Reisei Takatoyo, qui appartient à la série des sang-guerriers, les viscères ensanglantés qui se répandent depuis l'entaille de l'abdomen sont effroyables. Le visage, qui regarde déjà à moitié l'enfer, est montré en gros plan, le teint vert clair avec un peu de gris, les yeux injectés de sang, les lèvres et la langue violettes, comme Yoshitoshi était doué pour dessiner le maquillage de la mort. Dieu est cruel. L'existence humaine en elle-même est cruelle. Par ailleurs, à quel point l'humanité originelle a-t-elle aimé la cruauté ? Les célébrations des dieux et des rois s'accompagnaient toujours d'atrocités et de sacrifices. Depuis que l'opportunisme de la société a donné naissance, avec l'aide de la religion, à l'aversion et à la honte de la cruauté, il y a plusieurs milliers d'années, celle-ci est devenue un tabou absolu. Mais seule la guerre et l'art, par des méthodes radicalement différentes, comblent ouvertement la nostalgie de la cruauté. L'art ne cesse de traverser les eaux les plus profondes du tabou, et s'épanouissent alors des fleurs rouges et gigantesques qui ne sont pas de ce monde. Pour leur part aussi, les musanées de Yoshitoshi forment d'adorables petites fleurs de ce jardin des fantasmes. Plus les musanées de Yoshitoshi sont réussies, plus ces personnages se contorsionnent dans des positions impossibles. Impossibles peut-être, mais silhouettes véritables. Il ne s'agit pas de réalisme, donc non pas du réalisme, mais juste du réel. Il y a là une vraie terreur et la beauté.
Sculpture, mauvais genre, François Angelier.
Voilà, on peut dire, Gérald Pelloux, qui est Yoshitoshi, dont vient de nous parler Christophe Bier, à la faveur de la lecture d'un extrait d'un texte dont le titre est admirable, Nostalgie de la cruauté, et qui est donc dans les méandres du roman policier au Japon, en annexe. Alors, Yoshitoshi, maître de l'estampe, mais pas de n'importe quelle estampe.
De ce qu'on appelle les musanées, donc les images terribles ou horribles, en effet, des estampes qui présentent des descriptions gore, assez terrible, de démembrement, de mise à mort, etc. Et Rampo est absolument fasciné par ces images-là. On a des photos de l'époque où on le voit allongé, puisqu'on est au Japon, donc allongé sur les tatamis, déployant toutes ces estampes qui regardent avec un intérêt plus
une délectation.
Voilà, tout à fait.
Mais dissimulé.
Mais c'est vrai que c'est assez problématique parce qu'on peut se poser la question de savoir ce qu'il y voit là-dedans, dans ces estampes-là. Et en effet, le texte qu'a traduit Miyako Slocombe montre qu'en effet, il y a cette idée d'intérêt pour l'image en tant que telle et pas forcément pour la signification. Il y a un jeu énorme là-dessus. Il adore décrire des scènes absolument hallucinantes dans différents récits. Hein. Mais après, très souvent, on a tendance à dire c'est soit le Japon, soit c'est Rampo qui est comme ça. Finalement, il y a d'énormes clins d'œil. Alors, je dis pas que c'est pas vraiment de l'humour, hein, mais Rampo est quand même très en retrait par rapport à ce qu'il écrit par moment. Hein. Donc, c'est pas une glorification de la violence. Voilà.
Vous lui faites dire d'ailleurs quelque chose qui m'a étonné, je pense qu'il l'a forcément dit, c'est qu'il dit qu'il n'a aucun intérêt pour les crimes du monde réel, qu'il ferme les yeux pour voir des crimes, mais que ce sont des crimes imaginaires, que ça n'a rien à voir avec la cruauté extérieure du monde, mais juste des rêves flottants presque.
Sixtine Audebert.
Oui, bah vous qui avez justement travaillé sur l'expérience de lecture, l'acte de lecture chez Rampo, et comment est-ce que vous décrivez cet acte de lecture ? Est-ce qu'il y a une espèce de, justement, par rapport au spectaculaire des corps, par rapport à aussi... c'est vrai que néanmoins, étant donné que la plupart du temps, ceux qui sont des freaks, puisque c'est vraiment ça, sont les criminels, il y a peut-être aussi une manière de déculpabiliser le lecteur en lui offrant quand même une expérience, parce que ce sont à la fois des figures de créateurs, en général, ces criminels, et en même temps des figures comme la bête aveugle de malade obsédé.
Alors en effet, le...
Il y a une fonction aussi, enfin un côté voyeuriste.
Ah oui, complètement. En effet, on est dans le voyeurisme le plus total, avec les systèmes de voyeurisme où on installe des systèmes de télescopes pour aller voir les bains des femmes ou des hommes, ou se cache derrière une paroi pour aller voir des mises à mort, etc. Donc ça, c'est en effet, c'est typique de chez Rampo, ce voyeurisme apparaît quasiment dès les premières nouvelles. Encore une fois, je pense que Rampo joue beaucoup avec sa propre image. C'est-à-dire qu'en effet, il est catalogué dès les années 20, 1923-1930, comme le représentant d'un type de roman policier très sanguinolent, etc. Et il va très vite vouloir se mettre en retrait par rapport à cette image-là, mais en jouer aussi. Donc, si je reprends par exemple La Proie et l'Ombre, ce qui ne passe pas bien sûr en français parce que c'est des jeux sur la langue japonaise, le meurtrier qui est censé être celui qui joue beaucoup sur des textes à la Rampo, qui s'appelle donc Oeshunde dans le roman. En fait, c'est un jeu sur les caractères, l'écriture japonaise, où il y a un clin d'œil avec sur le terme de Edogawa Rampo. Donc en fait, lui-même se met en scène à travers les personnages du côté de ces écrivains qui seraient censés représenter des images les plus gore. Et Rampo met toujours en avant ces types de personnages-là qui vont voir des images sanguinolentes, etc. Et va pousser le lecteur à se positionner, à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il regarde lui-même, en fait.
Et quelle est la jouissance qu'il en tire aussi. Ouais. Vraiment ces questions-là de jouissance.
Et... Oui, on a à la fin de la Bête aveugle, où on voit ces femmes qui vont assister à un spectacle pensant qu'elles voient une poupée, et finalement, c'est un vrai meurtre qu'elles voient face à elles. Et dans le fer, Rampo joue avec le lecteur qui dit, vous voyez, vous jouissez d'une mise à mort, mais en fait, c'est plus que ça.
On peut découvrir bien sûr les fictions hautement mauvais genre d'Edgar Allan Poe chez Philippe Piquet, qui est traduction notamment de Miakos Lecombe. Mais je signale la sortie chez Wombat, qui a aussi beaucoup fait pour lui, notamment avec la parution il y a quelques années. J'en avais d'ailleurs parlé.
Le démon de l'île solitaire.
Le démon de l'île solitaire, mais vient de paraître chez Wombat. Un amour inhumain, donc, monsieur Jean-Pierre, on peut signaler et recommander chaudement.
Oh, très chaudement, parce que ce sont 6 ou 7 nouvelles sidérantes. Et une surtout à la fin qui s'appelle « L'abri anti-aérien ». Alors il s'agit de la guerre, c'est de la guerre où Rampo s'est occupé justement des gens qui étaient en péril avec les bombes qui tombaient partout. Et le héros, qui apparemment est Rampo, va se trouver dans un abri anti-aérien et va tomber amoureux d'une femme et va faire l'amour avec une femme. Mais comment est-ce possible? Qui est cette femme? Oh, faudra lire Un amour inhumain. J'ai trouvé que c'était dans les histoires de Blitz, car c'est un côté très anglais, la plus terrifiante que j'ai lue de ma vie, mélangeant la pulsion de mort, le risque des bombes imminentes, et tout d'un coup un amour véritablement inhumain.
Donc c'est aux éditions Wombat, c'est la nouvelle éponyme, Un amour inhumain. Fausto, alors Rampo, on l'a découvert effectivement grâce à Philippe Piquet, mais il y a tout l'univers, la manière dont le cinéma a accueilli, et la bande dessinée, l'illustration ont accueilli l'univers de Rampo.
Tout à l'heure, on parlait de l'appartenance de Rampo au genre roman policier. Je pense que ceux en fait qui adaptent Rampo n'adaptent pas un roman policier de Rampo, ils adaptent Rampo. C'est-à-dire que c'est devenu un genre à part entière.
Tout
c'est-à-dire
à
que
fait.
Quand Masumura adapte Rampo, quand Tsukamoto adapte Rampo, quand Maruo adapte Rampo, finalement, ils adaptent un genre qui est le genre Rampo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des réalisateurs et des dessinateurs ou des mangaka qui n'ont pas attendu d'adapter Rampo une première fois pour porter en eux Rampo depuis toujours. C'est le cas de Maruo. Finalement, ces adaptations concrètes sont assez tardives dans sa carrière, mais il porte en lui justement les germes de Rampo depuis toujours. Quelqu'un comme Tero Ishii aussi, qui a grandi justement en lisant les histoires pour jeunes garçons, qui étaient publiées dans des revues comme Shonen Club dans les années 30. Lui, il a grandi avec tout ça. Ça l'a vraiment nourri. Et finalement, ça s'est ressenti dans des travaux qui n'étaient pas directement des adaptations de Rampo. Donc après, on peut toujours effectivement discuter de quel est le meilleur film tiré de Rampo, quel est celui qui est le plus fidèle ou quel est celui qui justement trahit de manière un peu plus intelligente ou pertinente. Moi, il y a un titre que je retiendrai parce que c'est une sorte d'amalgame et de collage parfois un peu maladroit, mais qui justement essaye d'agglomérer toutes les obsessions de Rampo. C'est un film qui s'appelle Horrors of Malformed Men, qui est inédit malheureusement en vidéo en France,
mais qui vient d'être
édité en Blu-ray par les Britanniques de Arrow Video. Encore les Britanniques, Jean-Pierre, comme quoi. Hein.
Oui.
Et c'est vrai que d'une part, ça nous permet de cerner, ou en tout cas de voir quelles sont les obsessions picturales de Tero Ishii, qui est un des plus grands réalisateurs pop japonais. Et en même temps, ça nous permet d'avoir une sorte de digest, comme ça, un peu foutraque, mais qui en même temps agglomère un peu comme il peut tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on aime chez Marouault. C'est une sorte de best-of, de guide. On sait pas trop où on va, mais il y a ce plaisir en fait de se laisser porter par une sorte de force inconnue, et Théo Ishii arrive à cerner ça parfaitement.
Jean-Pierre, sur Marouault.
Alors moi, je préfère alors à ce moment-là sortir mes deux lézards noirs. Hein. D'abord le Inoue, qui a un côté comédie musicale, nettement, qui me fait penser d'ailleurs un petit peu, par son côté, un peu à Lola Montes même, dans la manière dont les choses sont dites, annoncées, présentées.
Donc un film de 62.
Et parce que l'actrice, comme Martine Carole, n'a pas la gueule de l'emploi. Et c'est donc un film d'Inoue, et 3-4 ans plus tard, il va y avoir le Fukazaku, qui est là, et un éblouissement, avec l'amante, allons-nous dire, de Mishima, dont je me suis aperçu récemment d'ailleurs avec un grand étonnement que sur deux dessins animés, vous retrouverez facilement de Miyazaki, certaines voix de filles lui sont dues. Vous verrez Miroa annoncer son nom après la mort de Mishima. Eh bien, elle a fait des voix, entre autres dans Kiki, des voix de petites filles. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose d'absolument extraordinaire dans l'imagerie qu'il fédère, dont je ne vois un équivalent qu'en Angleterre, dans le cinéma anglais. C'est ce mélange des fantasmes, du rêve, du cirque, et tout ça avec un plaisir qu'on partage, mais qui est un plaisir qu'on ressent comme profondément malsain, faisant partie de nous-mêmes. On n'est pas chez Bataille, on est en gros dans la même chose que le cinéma anglais, qui va être magique l'espace de 2 ou 3 ans, quand on aura le Cirque des Horreurs, Crime au Musée des Horreurs et Le Voyeur. C'est-à-dire qu'on voit dans les films, comme particulièrement celui, le deuxième Lézard Noir, le grand Lézard Noir, on voit des actrices qui ne sont pas des actrices, qui viennent du monde interlope, de ce qui est maintenant Nishi Shinjuku, qui avait un autre nom avant. On voit des personnages étranges. On est dans Le Voyeur de Michael Powell, on est dans tous ces films qui quelque part mélangent un monde sordide mais qui existe vraiment, et le cinéma, et qui nous frappe parce que quelque part nous sommes l'homme des foules d'Edgar Poe, qu'Edgar Warren Poe est également, et nous aimons bien aller dans ce quartier malfamé par films interposés.
Gérald Pelou.
Alors pour les deux films dont vous parlez, Horror of Malford Man, en effet, l'aspect foutraque dont vous parlez, il est en fait, dans le titre japonais, est indiqué, puisqu'en fait, il y a un sous-titre en japonais, qui est Edogawa Lampo Zensu, qui veut dire œuvre complète d'Edogawa Lampo. Mmh. Donc, il y a cette volonté de mélanger plusieurs œuvres, etc. Et pour revenir, en effet, sur les deux, les arts noirs, et surtout le deuxième, en fait. Il faut bien voir aussi qu'au Japon, on est à la fin des années 60, et il y a une redécouverte de Rampo. Rampo avait été un petit peu oublié dans les années 50, 60, puisqu'en effet, il vendait plus, et on était passé à un autre type de roman policier. Et c'est avec la montée en puissance des mouvements étudiants qui recherchent en effet des sortes de mouvements qui se lancent dans l'underground. Mmh. Et Rampo fait partie de l'underground avec d'autres écrivains de romans policiers qu'on ressort des années 30 qui avaient été oubliés parce que soit ils étaient morts pendant la guerre ou très rapidement.
On termine avec une parution de chez Cornelius, la Red Box, 16 Old Bear, de Toshio Saiki. Alors là, on est totalement dans l'univers de Rampo avec des fœtus grimaçants, des nains hérissés d'épingles, des jeunes filles malmenée, le mot est faible.
Tout à fait. Je commencerai par décrire un peu l'esthétique. C'est vrai qu'on se retrouve projeté dans cet entre-deux. Alors, d'abord, on a des aplats de couleurs très, très pop, très acides, qui sont un peu confrontés. Non, qui sont aussi d'abord dans un dessin de style, je ne sais pas comment on pourrait dire, ligne claire. J'ai lu ça un peu partout, donc je répète. Mais,
absolument.
Mais, c'est le cas.
Et qui tranche avec finalement une forme d'imagerie inspirée des estampes japonaises, je dirais, des femmes en yukata, dans des pièces aux parois coulissantes qu'on appelle donc les shoji, des yokai, c'est des mondes du folklore japonais. Bref, un univers qui emprunterait tout à l'ukiyo-e ou de l'ère Edo. Mais ce qu'on va retenir plus précisément quand on ouvre ce livre, c'est plutôt la violence qui provient du décalage entre la beauté de certaines femmes, l'innocence des petites écolières ou l'innocence qu'on leur souhaiterait, et la laideur des autres corps, donc le côté grotesque justement des corps amputés, des corps vieillis et ridés, et puis les démons. Et c'est vrai qu'on a l'impression, du coup, que ces démons incarnent justement une forme de fantasme culpabilisé, de fantasme criminalisé qui ne peut s'exprimer que dans ce cadre où finalement la violence physique, puisqu'il y a des sévices qui sont infligés aux petites filles, aux différents amants, qui viennent censurer le fantasme et le désir et l'expression, puisque c'est vrai qu'au Japon, on n'a pas le droit de représenter les sexes. Et donc, la violence devient un véritable fétichisme à proprement parler, c'est-à-dire qu'elle cache l'acte sexuel conventionnel attendu. Et donc, on peut, par exemple, prendre un des très beaux dessins où on a deux adolescents qui semblent l'un à l'autre en train de se masturber. Et derrière, ils sont presque enveloppés par deux démons qui les tiennent et qui les exposent l'un à l'autre. Et une chose assez étonnante, c'est la jeune fille qui éclabousse de sang son partenaire, tandis que quelqu'un lui tranche le ventre. On a l'impression véritablement que cette expression du désir censuré est violent. Que dire d'autre ? C'est des images assez difficiles à expliquer.
Ce sont des images qui sont totalement cauchemardesques et fantasmatiques. À aucun moment on est dans un réalisme de la torture ou du sévice. On est là vraiment dans des cauchemars ou des apparitions.
C'est ça,
oui,
c'est ça.
Et si on est parisien, on peut en profiter, on peut aller les voir actuellement, 27 rue de Charonne.
Mais hélas, je crains que ça soit terminé.
Mais non, l'exposition est terminée, Jean-Pierre.
Oh, trop tard, je l'ai fait.
Hélas, mes amis Art Factory, mais ils pourront ils ont des très belles reproductions.
Mais le livre est toujours là, de Toshio Saiki, formidable Redbox chez Cornelius. On termine ce mauvais genre, bien évidemment, et encore et toujours, avec Christophe Beer.
Dans les flammes et le fracas d'un village pillé par la tribu tartare des Balas, leur chef recueille une enfant survivante, Tania, qu'il forme à l'art du combat. À sa mort, elle lui succède, meneuse d'hommes claquant le fouet, le regard autoritaire, la chevelure noire abondante, la poitrine volontaire qui palpite au danger. La Reine des Barbares, coproduction franco-italienne de 1960 réalisée par Sergio Grieco, met l'Eastman Color au service d'une guerrière du concert Mayol, tenue baroque sertie de cornes dorées, de bracelets en toque et de fourrure synthétique. Fière dans son char, la cuisse nerveuse et le nombril impudique, Chelo Alonso caracolait au vedettariat. Dans ses besoins équivoques, le péplum à son apogée réclamait des musculatures transpirantes de virilité, mais aussi son quota de dames lascives, parmi lesquelles celle-ci fut la plus torride. Née dans un village de Cuba en 1933, elle se passionne pour la danse, incendiant le public des cabarets d'Amérique du Sud. Fuyant un présomptueux prince malaisien qui la désire pour lui seul, l'indomptable s'expatrie à Vienne, puis mène la revue parisienne des Folies Bergères. Sa renommée parvient jusqu'à Cinecittà. Elle y débute en danseuse orientale, déjà perfide, dans Sous le ciel de Rome, en partie tournée par Michelangelo Antonioni. Elle y est portée sur un plateau par quatre esclaves nubiens et s'affole au staccato d'un tambour. D'une féminité exacerbée, Chelo ne peut se contenter de ses participations décoratives. Dès le titre suivant, La terreur des barbares, elle partage l'affiche avec Steve Reeves, duo pectoral qui fédère tous les fantasmes. Forte tête, elle se love dans la sensualité trouble des reines cruelles, dévorées d'ambition et d'orgueil. Dans le géant de la vallée des rois, elle fait assassiner son époux Pharaon pour s'emparer du trône et asservir l'Égypte. Mais le débonnaire massiste, libérateur du peuple opprimé, bombe le torse. Vaincue, elle se précipite dans une fosse aux crocodiles. C'est la règle naïve du péplum. Les marâtres abdiquent devant la force physique. Elles périssent ou bien se pâment d'amour, oublieuses de leurs desseins abjects. Ainsi, dans Massiste contre le Cyclope, alanguie sur un trône orné de plumes d'autruche et descendante de Circé, Chelo perd toute méchanceté, lorgnant le buste imberbe du granitique Gordon Mitchell. Le filon du péplum exsangue, l'actrice peine à se reconvertir. Après une apparition fugace dans Le Bon, la Brute, le Truand, elle abandonne le métier sur un western méconnu, un tueur nommé Luc, en putain canaille, fumant le cigare et humiliant son cousin sacristain. Elle vivait à Rome, entourée de chats errants. Elle est décédée le 20 février 2019.
Merci Christophe Beer pour cet hommage donc à Cello Alonso. Merci Gérald Pelou d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre pour les actes que je recommande à tous les grands amateurs à la fois de Mauvais Genre, d'Eroguro et donc de Dogawa Ranpo, les méandres du roman policier au Japon, les actes du colloque de 1977 paru aux éditions Le Lézard Noir. Je recommande également, traduit par Miyako Slocum qui est vraiment spécialisé dans cet auteur, Un amour inhumain d'Edogawa Ranpo, c'est aux éditions Wombat. Et puis la lecture des textes, bien sûr, aux éditions Philippe Piquier et chez Cornelius, la Red Box de Toshio Saiki. Voilà, j'ai eu un rapide trou de mémoire. Merci donc à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Sébastien Royer, Séam Boutata, Claire-Martin Dugard, Sixtine Audebert, Jean-Pierre Dionnet, Fausto Fazulo, Christophe Biré, François Joliet vous remercie donc d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve samedi prochain où je recevrai Alain Damasio pour son évidemment récent roman Les Furtifs, paru aux éditions La Volte. Et d'ici là, bonne nuit à tous.